Prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
RFI vous donne la parole, comme tous les jours, jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous débattrons de cette annonce hier sur RFI par le nouveau Premier ministre guinéen. Il a clairement parlé d'une prolongation de la transition. Amadou Baouri a en effet déclaré que le calendrier allait dans la direction d'un retour à l'ordre constitutionnel en 2025, alors que les militaires au pouvoir, rappelez-vous, ils s'étaient initialement engagés à partir au plus tard à la fin de cette année. Alors, êtes-vous surpris par ce glissement de la transition? Quelles peuvent être les conséquences de cette prolongation? Appelez-nous, exprimez-vous, on a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70, et comme tous les matins évidemment, je lirai quelques-uns de vos commentaires postés sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, votre rendez-vous avec la rédaction de RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Aboubacar, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour, Juan.
À Dakar, au Sénégal, et vous avez des questions concernant votre pays et la présidentielle du 24 mars.
Oui, absolument. Bonjour, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI. Merci de m'avoir permis de participer à l'émission après cette actualité.
C'est normal.
Alors, le Parti démocratique sénégalais a déposé un recours à la Cour suprême pour annuler la date de l'élection présidentielle. À 10 jours, ma question est de savoir... à 10 jours des élections du premier tour,
oui.
La Cour peut-elle examiner cette requête? Peut-on s'attendre à un nouveau report de l'élection?
Alors, le PDS de Karim Mouad, effectivement, mais aussi plusieurs candidats qui n'ont pas été retenus, ils ont saisi la Cour suprême. Bonjour Léa Lisa Vesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Aboubacar.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Rappelez-nous d'abord l'objectif de cette requête déposée lundi à la Cour suprême.
Oui, vous le disiez, hein, c'est le Parti démocratique sénégalais de Karim Ouad et une quinzaine de candidats disqualifiés de la présidentielle qui ont donc saisi la Cour suprême pour demander l'annulation du décret qui fixe la date de la présidentielle au 24 mars. Ils dénoncent la violation de deux articles de la loi électorale et donc un scrutin convoqué de façon irrégulière. L'objectif pour eux, vous l'aurez compris, c'est d'interrompre le processus électoral, voire d'annuler ou de reporter à nouveau l'élection. Est-ce que ça peut marcher? La Cour suprême est-elle compétente? Comme le demande Aboubacar, eh bien, les juristes ne sont pas tous d'accord. Sur le plan formel, la Cour peut se dire compétente car il s'agit d'un décret. Les décrets peuvent faire l'objet de recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans un délai de 2 mois après leur publication. Sauf que là, il s'agit d'un décret en matière électorale. Or, le patron des élections, c'est le Conseil constitutionnel. Il a normalement la primauté des décisions en matière électorale et ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Oui, donc Léa Lisa Vesteroff, a priori, la Cour suprême devrait se déclarer incompétente pour statuer.
Oui, d'un point de vue juridique, elle devrait a priori ne pas être en mesure d'annuler ce décret, car je le disais, il intervient dans le cadre du fonctionnement des institutions et en matière électorale. En plus, cette décision a été validée par le Conseil constitutionnel, dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Enfin, dernier argument de plusieurs juristes qui pensent que la Cour suprême n'est pas compétente, c'est de dire que l'article 92 de la Constitution dit bien que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les administrations et donc aussi à la Cour suprême. Mais comme je le disais au début, il y a un débat juridique autour de cette question et on l'a vu ces dernières semaines au Sénégal, il y a eu de nombreux rebondissements inattendus, donc beaucoup restent dans l'attente de voir ce que la Cour suprême va dire, peut-être demain selon plusieurs sources.
Eh bien on verra ça évidemment, notamment avec vous Léa Lisa Vesteroff, correspondante permanente de RFI à Dakar. Aboubacar, vous avez une dernière question il me semble.
Oui, ma dernière question c'est pourquoi Bassirou Diomaye Faye n'a-t-il pas été libéré alors que la loi d'amnistie a été votée?
Et depuis vendredi dernier, depuis vendredi minuit, les candidats battent campagne, sauf Bassirou Diomaye Faye, il est toujours en prison. Il attend effectivement, Léa Lisa Vesteroff, sa libération grâce à la loi d'amnistie, votée la semaine dernière. Pourquoi n'est-il toujours pas libre?
Eh bien, il faut attendre que cette loi d'amnistie soit promulguée pour que le candidat puisse en bénéficier. Et pour cela, il y a un certain nombre de délais, encore une fois, administratifs. Il faut en réalité 6 jours sans que personne ne dépose de recours pour que cette loi puisse être promulguée. Donc aujourd'hui, ça pourrait être le jour où le président la promulgue, puisque la loi a été adoptée mercredi dernier par les députés de l'Assemblée nationale. Donc dès aujourd'hui, le président Macky Sall pourrait l'adopter. Mais là encore, le président dispose de 4 jours maximum pour le faire. Donc ça veut dire que la loi pourrait être promulguée entre aujourd'hui ou samedi au plus tard. Mmh. Ensuite, la libération de Bassirou Diomaye Faye ne sera pas automatique. Il reviendra au procureur de remettre la loi d'amnistie au juge pour qu'il statue. Donc même s'il est à peu près certain que Bassirou Diomaye Faye bénéficiera de cette loi d'amnistie, il est difficile de dire avec précision quand il sera libéré, Juan.
Aboubacar, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci, je suis très satisfait.
Bon, bah écoutez, on est ravis de vous faire plaisir. Bonne journée à Dakar. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter sur les 92 FM sur place. À très vite, Léa Lisa Vesteroff. D'autres questions à la rédaction, au standard 33 9 693 693 70. Bonjour à Amadou.
Bonjour, Juan Gomez et bon retour de Tchad.
Merci, effectivement. Je vois que vous êtes un fidèle de l'émission. Vous avez des questions, Amadou, sur le Nigeria. Le pays est sous le choc face aux enlèvements de masse.
Oui, Juan. Le dernier jour, le nord du Nigeria a été frappé par 3 enlèvements de masse, majoritairement des enfants. Mm-hmm. Alors, Juan, j'aimerais savoir pourquoi les enfants résident principalement des chefs du groupe armé.
Pourquoi les groupes armés ciblent-ils principalement les enfants ? C'est ça, le réseau téléphone n'est pas très bon.
Oui.
D'accord. On va répondre à cette première question, Amadou, avec Lisa Fabian, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Vous revenez d'une mission au Nigeria. Vous avez réalisé sur place plusieurs reportages. Effectivement, Amadou parle de plusieurs enlèvements de masse. Il y a eu celui survenu dans le nord-est du Nigeria, dans la région de Borno, où l'activité djihadiste persiste. Il y a eu ce deuxième à l'autre bout du pays, à Kuriga, dans l'état de Kaduna, où près de 300 enfants ont été enlevés au sein d'une école primaire et secondaire. Les faits se sont déroulés jeudi matin et on l'a appris cette nuit. Hier, des hommes armés ont enlevé des dizaines de villageois, toujours dans l'état de Kaduna. Ces enlèvements de masse, Lisa Fabian, dans les écoles, ils sont récurrents depuis la fin de l'année 2020. Pourquoi ce mode opératoire des bandits qui sévissent justement dans cette région du Nigeria ?
Eh bien, la réponse est en fait assez simple. Les bandits visent les personnes les plus vulnérables, les plus isolées. Ça peut être un fermier dans son champ, des femmes qui se sont éloignées ou alors des enfants. Il s'agit bien souvent de faire le plus de prisonniers possible parce que ça permet de négocier une rançon plus élevée. Les gangs ont donc tout intérêt à cibler un lieu où il y a un rassemblement. C'est pour ça qu'il n'est pas rare qu'il y ait des kidnappings ou des attaques dans les mosquées, par exemple. Attaquer une école, c'est être presque sûr de mettre la main sur un grand nombre d'enfants. Et cibler les plus jeunes, c'est l'assurance de choquer l'opinion publique et d'être entendu par les autorités en cas de revendication.
Ouais. Vous avez une autre question ? Amadou.
Oui, Juan. Est-ce que tu en parlais d'une augmentation des kidnappings dans le nord du pays ?
Alors, vous...
Et quelles mesures le gouvernement met-il en place pour retrouver les kidnappés ?
Alors, peut-on parler d'une recrudescence des kidnappings ? Vous le disiez, Lisa Fabian, il y a eu plusieurs kidnappings de grande ampleur dans les écoles en 2020-2021. Au total, ce sont des centaines d'enfants et d'étudiants. Que s'est-il passé depuis ? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une recrudescence ?
Alors, cette question est en fait assez complexe car il est très difficile d'avoir des chiffres fiables. Dans beaucoup de cas, il s'agit d'attaques isolées qui ne sont pas toujours comptabilisées. Je me souviens d'avoir interrogé un homme à Kaduna, dont 5 membres de la famille proche avaient été kidnappés à des moments différents. À chaque fois, c'était les proches qui avaient mené les négociations eux-mêmes sans aucune intervention des autorités. Cela dit, les personnes auxquelles j'ai pu parler à Kaduna ces derniers jours notaient effectivement une amélioration du climat sécuritaire ces derniers mois dans la région, avec moins de vols de bétail et des routes plus sûres. Mais hier, mardi, Juan l'a dit, 60 de résidents d'un village tranquille ont été tirés de leur lit à l'aube et emmenés par les bandits. Ce qui montre bien qu'il y a une reprise de la violence après une relative accalmie, peut-être liée à la période post-électorale au Nigeria.
A-t-on une idée, Lisa Fabian, du dispositif mis en place par les autorités pour essayer de retrouver ces hommes, ces femmes, ces enfants ?
Alors, les autorités ne communiquent pas vraiment sur leur stratégie, donc c'est difficile de savoir. En plus, dans le cas des enfants de Kuriga, il n'y a toujours pas eu de revendication. Pour le moment, le gouverneur local assure qu'aucun dialogue n'a été ouvert avec les bandits, mais c'est impossible à vérifier. Par le passé, les autorités nigériennes nigérianes ont souvent dû se résoudre à négocier avec les preneurs d'otages. On sait juste que des renforts militaires ont été dépêchés à Kaduna ces derniers jours pour mener des opérations de recherche avec l'aide des chasseurs enrôlés dans les milices d'autodéfense locales.
Ouais, je rappelle que ça va bientôt faire 10 ans que des djihadistes de Boko Haram avaient kidnappé plus de 250 écolières de Chibok au nord du Nigeria. Ça avait suscité un tollé international. Et bien certaines de ces écolières sont toujours portées disparues. 10 ans après. Merci à vous, Lisa Fabian. Vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI, Pure Radio, ou sur notre chaîne WhatsApp. RFI appelle sur l'actualité. D'autres questions à la rédaction. On va parler du Gabon. Soyez le bienvenu, Mamadi.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à toute l'équipe de l'appel sur l'actualité.
Et merci de nous appeler de Conakry, en Guinée. Quelles sont vos questions ?
Juan, 6 mois après le coup d'État, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé la levée des sanctions contre le Gabon. Alors, qu'est-ce qui a poussé la CEAC à prendre cette décision maintenant ?
Ah, pourquoi maintenant ? Bonjour Sébastien Lemaitre.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Il faut rappeler que ce n'était pas la première fois que cette question était étudiée par les États de la communauté économique des États d'Afrique centrale.
Voilà, le Gabon avait été suspendu de l'organisation quelques jours après le coup d'État du 30 août. Un transfert temporaire du siège de l'organisation de Libreville à Malabo avait même été ordonné. Sanction prévue jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Le général Oligui Nguema, chef des putschistes, président de la transition, avait alors multiplié les déplacements. Il avait fait du lobbying pour obtenir la levée de ces sanctions. Il avait même vu tous les chefs d'État de la sous-région, sauf le président angolais. Les autorités avaient aussi publié le calendrier de la transition. Malgré tout, mi-décembre, la CEAC avait maintenu les sanctions, même si le projet d'éménagement à Malabo avait été annulé. Et rendez-vous avait donc été donné au prochain sommet de l'organisation, qui était samedi dernier.
Voilà, et la décision a donc été prise par les chefs d'État. Or, entre-temps, Sébastien Lemaitre, plusieurs problèmes internes à la CEAC se sont aggravés.
Et notamment les fortes tensions entre le président de sa commission, l'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo, et une partie des employés. Il faut dire que le diplomate est très contesté en interne. Les agents ont envoyé plein de courriers pour dénoncer sa gestion, ses décisions, son non-respect des procédures, etc. Tout ça est remonté dans la hiérarchie et une motion de carence était pressentie. C'est une sanction inédite dans l'histoire de la CEAC pour signifier en fait qu'il n'a pas rempli ses missions. Et finalement, de ce que je sais, il y aurait eu un accord tacite. On lève les sanctions contre le Gabon et en échange, Verissimo garde son poste jusqu'à la fin de son mandat en 2025. Tout ça, c'est négocié en coulisses, en Rouen. L'organisation aurait quand même signifié à l'Angolais qu'elle était mécontente. Mais il avait le soutien de la Guinée équatoriale, de son pays l'Angola, bien sûr, pour éviter en fait une crise ouverte entre États membres, que tout ça soit déballé en quelque sorte sur la place publique, ce compromis a été trouvé.
Mamadi, une autre question à Sébastien Lemaitre.
Et voilà, la dernière question. Alors, cette levée des sanctions pourra-t-il faciliter le retour du Gabon au sein de l'Union africaine ?
Ah, c'est vrai que le jour du putsch, le 30 août, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine avait condamné fermement la prise de pouvoir par les militaires et décidé de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes, de ses institutions. Ce sont les termes du communiqué de l'époque. Sébastien, est-ce que cette sanction pourrait disparaître ?
C'est tout à fait possible, Juan. L'UE est la dernière organisation à maintenir le pays sous sanction. Le Gabon est en paix, on a un calendrier de transition, des institutions provisoires en place, un dialogue national prévu le 2 avril avec toutes les couches de la société, donc pas sûr que le maintien des sanctions se justifie. D'ailleurs, la CEAC va envoyer une délégation à l'Union africaine pour une mission d'information et faire un plaidoyer afin d'expliquer pourquoi la communauté d'Afrique centrale a levé ses sanctions. Le plaidoyer doit aussi montrer à quel point la population gabonaise adhère au processus de transition en cours. Ce sont les termes du communiqué. Donc la CEAC va plaider en faveur de Libreville, ce qui est quand même un atout, Juan.
À suivre donc. Mamadi, êtes-vous satisfait de nos explications ?
Très satisfait, Juan. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Et bonne journée à Conakry. Et j'espère que vous serez nombreux tout à l'heure. Je sais que vous l'êtes déjà au standard, mais à nous appeler pour parler justement de la Guinée et de la perspective d'une prolongation de la transition. C'est le Premier ministre en exclusivité hier sur RFI qui l'a annoncé. On se dirige donc vers ce glissement de la transition. 33 9 693 693 70. Il est 9h25 à Paris. La dernière question ce matin. Bonjour Alpha Dio.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous êtes à
Comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi comme tous les matins d'être en direct avec les auditeurs de RFI, de vous avoir au bout du fil, de dialoguer avec vous. Vous êtes à Monrovia, dans la capitale du Liberia, voilà. Et vous avez justement des questions sur le Liberia.
Effectivement, Wan. Bonjour à votre équipe et à tous vos millions d'auditeurs dans le monde. Oh. J'ai une question par rapport au Liberia.
Oui.
Au Liberia, le Parlement a voté une motion pour la création d'un tribunal pour juger les crimes de guerre. Hmm. Comment expliquer cette décision maintenant, alors que le pays n'a jamais condamné un de ses bourreaux?
C'est une bonne question que vous posez. Un tribunal spécial pour juger les auteurs des crimes commis lors des deux guerres civiles qui ont déchiré ce pays entre 1989 et 2003. Bonjour Liana Maria Oursa.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences politiques et spécialiste du Liberia. Alpha Dio le disait à l'instant, ça fait 20 ans que les victimes réclamaient la création d'un tel tribunal. Pourquoi tout cela a été si long?
Ben, cela était si long parce qu'il n'y avait pas de la volonté politique. Et je veux préciser que c'est juste une résolution qui a été adoptée par la Chambre des représentants du Parlement libérien, mais pas du Parlement tout entier. Oui. Maintenant, cette résolution qui pourra devenir une loi se trouve dans le Sénat, qui a été à travers le temps une enclave autoritaire qui a toujours stoppé le processus de mise en place d'un tel tribunal. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour rendre justice. La coutume internationale veut qu'il y ait une non-prescription des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, les accords d'Accra n'ont jamais statué une amnistie pour des faits de guerre. Pourquoi maintenant? Parce qu'apparemment, avec le nouveau président, on a une volonté politique de passer à une autre étape de l'histoire libérienne, de fermer ce chapitre douloureux du Liberia, de l'histoire du Liberia. Il ne faut pas oublier que le président Boakai n'a plus rien à prouver en termes politiques. Il est le seul qui peut faire ce travail actuellement. Et après, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre aussi fin à la manière de faire business as usual in Liberia, c'est-à-dire depuis la création de ce pays en 1847, l'impunité a été toujours présente dans l'espace public, dans l'espace politique, dans l'espace social et économique. Mmh. Et cela a généré de la corruption et tous les autres tas de la société libérienne, violation des droits de l'homme, meurtre non élucidé et tous les autres mouvements de l'argent public et accaparement des pouvoirs publics.
Vous parlez de Joseph Boakai, le nouveau président du Liberia. Effectivement, c'est à lui qu'il reviendra au final de ratifier la loi si elle est adoptée par le Sénat. Mais il se trouve que le président Boakai, vous dites qu'il n'a rien à prouver, il se trouve qu'il est quand même très proche d'un ancien chef de guerre, Prince Johnson.
Oui, justement, mais tous les trois présidents de l'après-guerre au Liberia ont été élus avec l'aide de Prince Johnson, c'est pas juste M. Boakai. Et donc, ça a été un frein pour l'établissement justement d'un tribunal pour rendre compte des atrocités durant cette guerre civile. Mais depuis le début, il a été accusé certainement qu'il n'établira jamais un tribunal de paix, un tribunal spécial pour le Liberia, mais voilà, son premier pas a été fait lors du discours inaugural en janvier 2024, où il a clairement dit qu'il est pour l'établissement d'une cour extraordinaire pour le Liberia, et il a fait les pas, il a pris contact avec les instances internationales, avec les partenaires internationaux et avec la société civile qui a toujours fait pression qu'un tel tribunal existe, mais qui n'a pas eu de visibilité et de l'appui public.
Mais Liana Maria Oursa, en deux mots, il y a certes la position officielle de Joseph Boakai, il y a cette relation avec Prince Johnson. Prince Johnson qui a quand même prévenu, si vous tripatouillez l'amnistie, vous tripatouillez la paix.
Oui, tout à fait. Mais bon, Prince Johnson, ce n'est pas le seul qui devra rendre des comptes devant ce... Ils vendent cette menace, mais... les Libériens ont connu 20 ans de paix, donc ils sont plus, je crois, aujourd'hui, ils sont plus enclins de faire la paix. Et ce tribunal, il doit savoir que ce n'est pas pour vengeance, c'est pour clôtre cet épisode douloureux du Libéria. Et aussi parce qu'aujourd'hui, des responsabilités pour des crimes de guerre ont été établies qu'à l'étranger.
Effectivement. Il y a d'ailleurs un procès qui se déroule en ce moment même à Paris. Merci infiniment.